Bonjour à tous, l'écho en folie, et oui, petite notion change de nom. À partir de ce jour, ça sera l'écho en folie sur Radio Galaxie. Écho oui. Comme économie, n'est-ce pas Bernard?
Oui, bonjour, et on change de nom. Et si vous avez quelque chose à proposer comme nom, c'est le moment aussi de le faire. Parce que c'était difficile de passer à petite notion à quelque chose qui symbolise une émission mensuelle sur l'économie.
Pour cette première écho en folie, on va voyager un petit peu partout dans le monde. On va commencer du côté du soleil levant avec la situation chinoise. Où en est-elle, Bernard?
Alors, pour parler de la situation chinoise, on va partir du Volvestre d'abord. Puisque la Chine est un pays éleveur de canards, on peut dire très simplement que l'émission qui a été diffusée au mois de mai, parlait des éleveurs de canards gras et des difficultés suite à la grippe aviaire. Et là, on peut le dire, on va le dire tout le mois de juin, je pense, on peut leur dire bonne chance, puisque les petits canards sont revenus dans les élevages et qu'ils ont repris leur activité. Activité importante pour beaucoup d'entre eux dans le Volvestre. Oui. Donc, l'autre pays du canard, c'est la Chine. Effectivement, quand vous allez dans ces pays, que ce soit la Chine, le Vietnam, ou la Thaïlande, ou le Laos, vous voyez partout des élevages de canards. Bon, c'est des pays où il y a beaucoup d'eau, c'est facile, et vous élevez des poissons.
Tout est dit. Que dire encore de ce pays qui a été un petit peu ébranlé par sa monnaie?
Alors, plusieurs aspects sur la Chine. Ce que je pouvais dire, et c'est, je pense qu'on pourra examiner qui feront l'actualité au mois de juin, c'est parmi les problèmes économiques, c'est l'évolution et les décisions économiques en Chine. La Chine évolue très rapidement, d'un point de vue politique, peut-être que vous le suivez, mais du point de vue économique également. Progressivement, l'État chinois avait rendu un petit peu leur monnaie convertible. Un petit peu, nous en avions parlé il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, en fait, ce yuan convertible, bien, il a tendance à se dévaluer. Pourquoi? Parce que la situation chinoise à l'exportation se dégrade. La Chine est moins compétitive qu'il y a quelques années. Mm-hmm. C'est un peu compliqué.
Oui.
Les entreprises chinoises ont en fait monté leurs ateliers de fabrication beaucoup dans des pays où la main-d'œuvre est encore plus basse qu'en Chine.
D'accord. Et est-ce que c'est aussi le fait que peut-être leur fabrication ne tient pas la route comme d'autres produits peut-être?
C'est peut-être pas l'hypothèse qui se vérifie. Les grandes entreprises mondiales et leurs sous-traitants chinois, eh bien à un moment ils étaient compétitifs, les Chinois, maintenant ils sont moins en termes de main-d'œuvre. Parce que le développement de la Chine a entraîné une hausse des salaires, tout simplement, logiquement.
Oui.
Et donc, les entreprises qui cherchent, je ne nommerai personne, entreprise de matériel et de produits de sport, par exemple, mais ils ne sont pratiquement plus en Chine, ils sont dans d'autres pays, pour les citer, pour ceux qui aiment voyager, vous les trouverez au Vietnam, ils sont très visibles d'ailleurs, en Indonésie, aux Philippines et au Bangladesh en particulier.
Mmh.
Voilà. Donc la Chine exporte moins et dans la crise, enfin, le ralentissement économique mondial, ça se sent beaucoup chez eux.
Oui.
Et donc ils se sont reconvertis avec leurs nouveaux dirigeants, ils se sont reconvertis vers un développement interne, une croissance liée à la demande interne.
Oui.
C'est exact. Ils l'ont fait, mais l'État l'a fait massivement. C'est-à-dire qu'ils ont injecté beaucoup de monnaie. Et comment ils se retrouvent? Eh bien, ils se retrouvent avec un surendettement intérieur.
Oui.
Alors que c'est un pays d'épargnants aussi, les Chinois.
Oui, tout à fait.
Oui, presque comme les Français. C'est pour l'instant, les Français sont champions du monde d'épargne. Mais que se passe-t-il? Eh bien, ils se retrouvent, les banques chinoises sont considérées comme en difficulté parce qu'ils ont des créances, comme on dit, douteuses.
Mm-hmm.
L'État chinois a encouragé des investissements en tout azimut, au profit évidemment des oligarches, de leurs propres milliardaires. Hein. Mais malgré tout, ça a donné naissance à des créances douteuses. Donc l'État chinois se retrouve, je n'allais pas dire comme la Grèce, ça n'a rien à voir, mais se retrouve surendetté concrètement. Et une partie de cet endettement, hein, vu les crédits qu'ils ont accordés, est un endettement douteux. Donc on a affaire au géant mondial qui peut se déstabiliser,
oui,
qui peut connaître une crise. Et si le géant mondial connaît une crise, comme les États-Unis,
oui,
nous en subissons les conséquences.
Tout à fait. La Grèce, dans tout ça, justement, vous en
voilà,
avez soulevé.
Deuxième volet, puisque le mois de juin est une façon de faire un bilan.
Et oui.
Vous savez que le retour des beaux jours incite à l'optimisme économique, incite à changer de vêtements, etc. Dans tous les pays du monde, le mois de juin, c'est comme un mois de fête. C'est un mois qui, du point de vue de la consommation, est un mois important.
Oui.
Donc revenons à la Grèce, puisque c'est un pays de vacances,
oui,
entre autres. Et c'est un magnifique pays de vacances, il faut le dire aussi. Eh bien, que se passe-t-il ? Les instances internationales qui ont prêté à la Grèce, la fameuse Troïka, puisqu'on l'appelait comme ça, s'est réunie il y a quelques jours, fin mai. Et que dit-elle ? Eh bien, elle constate que l'État grec n'arrive pas à rembourser, comme prévu. Donc le FMI, extraordinaire, extraordinaire. Le FMI, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il ne faut pas demander qu'il rembourse. Il va falloir effacer la dette. C'est-à-dire que ce que disaient certains économistes alternatifs il y a 3 ans, en disant qu'il n'y a pas de solution, il faut effacer, eh bien, va se mettre en place progressivement.
Mm-hmm.
Sinon, deuxième volet, tout ce qui se passe en Grèce, ils ont un point fort de géopolitique, c'est l'accueil des réfugiés. Ils sont le point d'entrée. Donc, le point d'entrée, ils le contrôlent plus ou moins, c'est le robinet. Si on ne leur fait pas plaisir, eh bien, ils ouvrent le robinet. Ils ont des moyens de pression, comme on dit au niveau international, qu'il ne faut pas négliger. Et autre élément important, pour ceux qui connaissent la Grèce, ceux qui suivent l'évolution grecque, ou ceux qui vont régulièrement en Grèce, le peuple grec s'est adapté à la situation de crise. Et il développe de nouveau des liens sociaux, des relations marchandes à l'intérieur des quartiers, des communes, de la campagne, des choses. Ils font, rendez-vous compte, ils ont découvert le circuit court. Incroyable, n'est-ce pas ? Et donc, ils développent un autre schéma économique, une autre organisation sociale qui est alternative. Et pour certains, ils en sont fortement heureux.
Mmh. Alors justement, le tourisme en Grèce pour cette année, est-ce qu'il va se porter bien ou est-ce qu'il y aura des retombées là-dessus aussi ?
Le tourisme grec s'est porté bien dès l'année dernière. Il est extrêmement attractif au point de vue des prix,
oui,
il faut être clair. Il est attractif, bien sûr, parce que c'est un pays merveilleux. Et puis ensuite, comme d'autres destinations, il profite des soucis, de l'inquiétude, de la peur des touristes des pays développés, de l'Europe en particulier. Hein.
Mmh.
Effectivement, le tourisme s'est effondré, par exemple, en Tunisie, à mon sens à tort, au Maroc. Et je ne vous parle pas du Liban, je ne vous parle pas de la Jordanie, je ne vous parle pas de l'Égypte. Et même aussi, il y a de gros problèmes pour la Turquie.
Oui. On va traverser l'Atlantique et on va aller voir les aspects financiers avec ce que nous préparent les USA.
Alors,
qu'est-ce qu'il nous prépare ?
Juin, que pense-t-on des USA ?
Voilà. Une entrée ou un dessert ?
Oui, ça peut être les deux, mais ça peut être pour l'Europe une difficulté.
Ah.
On ne va pas parler des négociations TAFTA, qui semble-t-il sont bien mal parties pour les États-Unis. Non, on va parler de la conjoncture économique américaine. On est au mois de juin, on est à quelques mois des élections présidentielles aux États-Unis. Et ceci joue sur l'ambiance des États-Unis et va jouer certainement très très fortement à l'automne. Mais pour l'instant, que peut-on dire des États-Unis ? Eh bien, ils se portent bien. Leur chômage a fortement diminué après la crise. Ils en sont sortis quelque part. Le taux de chômage est faible, même si le calcul des chiffres est différent de chez nous. Leur croissance est positive depuis 5 ans, elle est positive. Et avec des chiffres, on est à 2,50%. Donc, on a un ensemble d'éléments qui vont pousser certainement la Banque centrale américaine à augmenter ses taux d'intérêt. Ce qu'on appelle les taux directeurs. Je crois qu'il va falloir faire une petite parenthèse sur les taux directeurs, d'ailleurs, et les rappeler ce que c'est. Mais tout simplement, si les États-Unis augmentent leur taux directeur de refinancement bancaire, eh bien, ça va avoir un effet sur le monde entier et en particulier sur l'Europe. Voilà la crainte qui est dans les tuyaux.
Mm-hmm.
Pourquoi la Banque centrale augmenterait-elle ses taux directeurs ? Très simplement parce que l'inflation est repartie aux États-Unis. Vous avez l'inflation que la Banque centrale voudrait bien qu'il y ait en Europe et qu'il n'y a pas. Elle est repartie et donc ils veulent la freiner, cette inflation. C'est une situation qui va avoir des effets puisque les entreprises américaines et particulières auront moins accès au crédit, donc ils seront moins acheteurs, etc. Peut-être faudrait-il rappeler ce que c'est que le taux directeur.
Tout à fait.
Alors, ce qu'on appelle les taux directeurs, ce sont les taux de refinancement bancaire que fixe la banque centrale du pays. Très simplement, lorsqu'une banque commerciale a besoin de monnaie banque centrale, elle se tourne vers la banque centrale et elle lui dit « je veux du monnaie, de la monnaie, accordez-moi un crédit ». Voilà, très simplement. Un refinancement. Donc la banque centrale dit ok, selon des critères, etc. C'est compliqué, mais dit ok, et ça sera à tel taux qui est un taux qui est public. Donc ce taux de refinancement est pour la banque commerciale un coût. Et donc après, elle va prêter aux particuliers, mettons, à 3 ou 4%, et en sachant que la banque centrale, ça va lui coûter 0,5%. Actuellement en Europe, ça coûte quasiment rien de se refinancer à la Banque centrale. Mais si vous le montez, automatiquement, toute l'échelle des taux d'intérêt progresse, augmente. Ouais. Donc les gens ont moins accès au crédit.
Oui. Et donc ça freine la consommation du coup.
Et ça freine, c'est censé freiner la consommation. Il y a d'autres éléments qui interviennent à la consommation.
Tout à fait.
En particulier psychologique.
On va continuer notre tour du monde. On va revenir à côté de chez nous. La situation économique allemande,
où elle a... c'est merveilleux pour eux, ou presque. Mais est-ce que c'est bien pour l'Europe? Pourquoi? Parce que l'Allemagne est toujours dans un taux de croissance positif, une baisse du chômage, et surtout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne dit pas dans les grands médias, c'est que l'Allemagne a une balance commerciale, donc les relations avec l'extérieur, qui est excédentaire, très fortement excédentaire. Et ensuite, l'État allemand a un excédent budgétaire, et ceci depuis plusieurs années. Monsieur Schröder, le ministre des Finances, y tient particulièrement. C'est quelque part un déséquilibre. Est-il vraiment nécessaire dans une Europe en crise que l'Allemagne ait un excédent budgétaire? Alors que, pour tous les observateurs, l'Allemagne est en train de voir ses infrastructures se dégrader. Pour ceux qui connaissent les autoroutes allemandes, je vous assure que cela n'a rien à voir avec les autoroutes françaises. On y roule très mal, en fait. C'est chaotique de partout, elles sont très mal entretenues. Les voies ferrées, n'en parlons pas. Vous voyez, l'Allemagne ne fait plus d'efforts sur ses infrastructures pour pas dépenser d'argent, pour être excédentaire. Ouais. C'est un défaut. Et deuxièmement, la balance commerciale, c'est-à-dire ils sont très compétitifs, pas nécessairement par les prix, pas par le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre allemand est plus élevé que le coût de la main-d'œuvre en France. Mais très simplement, dans la conception des produits, ça, ils sont très bons, il faut le dire, dans la maintenance, etc. Et même, on pourrait dire d'une manière humoristique, même dans la tromperie, puisqu'ils sont capables de vendre pendant des années des véhicules qui ne polluent pas, tout ça en traficotant les ordinateurs embarqués.
D'accord.
Voilà. Mais bon, c'est aussi une force. Mmh. Donc, s'ils sont excédentaires, c'est-à-dire que leurs partenaires sont déficitaires. Quels sont les partenaires dans l'Allemagne? Le premier, c'est la France.
D'accord.
Donc, le déficit français s'explique aussi parce que les Allemands sont vraiment excédentaires et ils souhaitent rester excédentaires. Ils pourraient ne pas l'être. Mmh. Ils pourraient dépenser beaucoup plus et ils ne seraient pas aussi excédentaires.
Oui. Donc, ils voulaient sortir d'ailleurs, ils ont programmé l'arrêt de leur centrale atomique.
Alors,
où est-ce que ça en est?
Alors, où ça en est? C'est que l'Allemagne, oula, mais ça va très vite d'ailleurs. L'Allemagne a décidé, et le gouvernement allemand, ça fait déjà plusieurs années, a décidé de progressivement de remplacer l'énergie nucléaire par, disons, de l'énergie moins polluante. Et donc, ils ont pris les moyens d'une manière très forte, et l'État a aussi des moyens, des avantages, des encouragements, y compris fiscaux, pour que les particuliers s'équipent en panneaux solaires. Ils ont fait comme nous, mais d'une manière encore plus massive. Et donc, l'Allemagne est en route, peut-être pas tranquillement, mais elle est en route vers remplacer l'énergie nucléaire.
Oui, donc ça aura des retombées aussi sur les autres pays, puisque justement l'Allemagne ne va plus acheter de courant électrique.
Ils sont censés ne plus acheter de courant électrique nucléaire. D'un point de vue technique, si vous écoutez les gens qui sont dans le secteur de l'énergie, vous savez, le commerce de l'énergie en Europe, c'est surtout un commerce de compensation des moments de pointe, qui sont un peu différents de pays à pays. On importe de l'énergie lorsque nous, on est dans des situations de très forte consommation. Mais je reviendrai un petit peu en arrière sur l'énergie moins polluante. Très simplement, si on parle de l'éolien ou si on parle du soleil, c'est qu'en investissant massivement dans ces énergies renouvelables, les Allemands ont gagné quoi ? Une compétence. Leur industrie est devenue hyper bonne, leurs chercheurs très très bons.
Oui.
Et donc, du coup, ils deviennent incontournables. Incontournable, semble-t-il, d'après ce que j'entends. Incontournable, si vous avez un projet régional, on pense par exemple à notre prochaine région Occitanie, le projet régional qui est de faire du renouvelable, eh bien, il faudra s'adresser à des entreprises allemandes. Les entreprises françaises, il y en a.
Oui.
Mais est-ce qu'elles font le poids technologiquement ? Non, ceux qui sont en avance, ce sont ceux qui ont des clients massifs. Mmh. Et je rappelle aussi que de ce point de vue, ça a été aussi quelque chose d'excellent pour l'agriculteur, pour les agriculteurs allemands, puisqu'ils ont été encouragés à faire à travailler leur biomasse et à faire du méthane. Eh bien, ils ont massivement, ils se sont équipés dans la méthanisation. Et quand on voit la crise qu'il y a sur le lait, sur la viande, ce sont des crises sur des produits mondiaux, ça remontera, puis ça rebaissera, il y aura de nouveau des crises. C'est un marché mondial. Eh bien, eux, ils avaient aussi à côté une autre ressource qui, elle, était stable et qui leur permet de traverser la crise beaucoup mieux que nos agriculteurs en France.
Oui. On va traverser la Manche, on va aller du côté anglais maintenant. Il y a eu un grand bouleversement, le vote anglais.
Eh oui, la situation bouge en Chine, certes, mais aussi en Europe. Les Anglais, vous le savez, vont dans ce courant de mois de juin, c'est le 22 ou 23 juin, 21 peut-être, se prononcer sur leur maintien dans l'Europe. À l'heure où l'émission est enregistrée, au jour, nous sommes fin mai, les sondages sont très partagés. Apparemment, on est sur un équilibre du résultat. On ne sait pas qui va l'emporter. On appelle ça le Brexit, ils vont quitter l'Europe. Si quitter l'Europe l'emporte, cela aura des conséquences économiques dans l'Europe. Il y en a même apparemment. On assiste déjà à ce que des sièges sociaux d'entreprises multinationales quittent par exemple le Luxembourg. On se dit peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, mais bon. Quittent le Luxembourg pour repartir, se relocaliser à Londres. Bon, il faut savoir que pour les Anglais, nous sommes l'Europe est leur premier partenaire commercial. Il faut savoir qu'en termes touristiques, par exemple, déplacement de population, l'Europe est très importante. Nous savons bien qu'autour de nous, dans le Volvestre, nous avons de nombreuses familles anglaises qui viennent, qui sont implantées à demeure, ou certaines qui viennent pendant les vacances. Donc, l'Europe est une autre dimension. Si les Anglais se partent, ça va faire bouger beaucoup les choses. D'abord, on pourrait dire qu'en termes économiques, ça va poser beaucoup de questions. Et là, on ne connaît pas de réponse à ce moment-ci.
Oui.
Parce que s'ils quittent l'Europe, est-ce qu'on va accepter leurs règles fiscales qui attirent leur fiscalité sur les sociétés est bien plus faible que dans les pays européens. Donc, ce qui a pour but d'attirer des sièges sociaux.
D'accord.
Est-ce qu'on va l'accepter ?
Oui.
Est-ce qu'on ne va pas les traiter comme des paradis fiscaux ? Moi, je dirais, quelque part, entre Panama et Londres, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce qu'on ne va pas sévir ?
Oui.
Ensuite, que vont dire tous les gens d'Européens qui travaillent en Angleterre ? L'Angleterre est un pays relativement ouvert, qui a une forte habitude d'accueillir des populations venant du reste du monde. Aujourd'hui, vous le savez, il y a une forte communauté française, belge, allemande, mais aussi scandinave qui travaille à Londres. mais aussi à côté des Indiens, des Bengalis, des Indonésiens, des Malaisiens, des Thaïlandais. Hein? Oui. Mais il y a une forte communauté qui travaille là-bas. Que vont faire ces gens qui sont européens, allemands ou français, que vont faire ces gens s'il y a séparation?
S'il y a séparation, il peut y avoir donc fermeture des frontières de la part de, justement, de l'Angleterre.
Ah, mais l'Angleterre, elle veut se séparer, mais pas la frontière. Soyons clairs. Oui. Ça sera les Européens qui disent, si vous vous séparez, on va prendre des mesures aux frontières. Les Anglais, d'une manière, depuis trois siècles, sont totalement pour libre-échangiste. Hein, il faut que les marchandises circulent librement, mais pas les hommes. Et les capitaux librement, puisque c'est nous qui les accueillons. Et ils voient, les Anglais sont... Enfin, il suffit de regarder une équipe de foot. Les Anglais travaillent pour eux-mêmes, point barre.
D'accord.
Voilà. Ils n'ont pas tellement de vision, d'unité, de construction. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ensuite, effectivement, est-ce qu'ils resteront dans l'OTAN, mais est-ce qu'ils auront cette vision par rapport à la défense ? Vous savez, je l'ai déjà dit au cours des mois précédents, je suis personnellement plutôt pessimiste en tant que citoyen sur l'avenir de notre monde, et en Europe en particulier. Et je dirais, et on n'est pas en économie, mais il y a quand même des fois des liens, que peut-être qu'en Europe, on prépare quelque chose qui ressemble à une guerre, et tous les pays s'arment. Voilà, pour revenir au Brexit. Donc, oui. Le Brexit, s'il y a lieu, aura des conséquences très fortes en Europe.
D'accord.
Bien entendu. Est-ce que les Anglais vont continuer à venir ici pendant leurs vacances, etc. Profiter des canards gras et du plaisir de marcher gratuitement dans les Pyrénées.
Oui.
Ce qui n'est pas toujours possible en Angleterre. Tout est privé en Angleterre. Mm-hmm. Et on parle beaucoup de chemins de randonnée dans le Volvestre.
C'est
tout le monde en parle, toutes les communes en parlent. Allez en Angleterre, vous serez étonnés. Chemin de randonnée, ce sont les routes.
D'accord. On a fait le tour un petit peu de tout le monde. Vous parliez que peut-être il y a la marmite boue côté guerre en Europe. En France, la crise, et en France, justement, tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est encore ce bouillon qui pourrait monter?
La situation économique mondiale n'est pas purée du tout. Pour certains, on va aller vers de nouveau une crise liée au surendettement. Et ceci est, disons, la conséquence de la disparition de la gestion de la monnaie. L'abandon des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire de la stabilité des taux de change, on continue de le payer. Pour beaucoup de penseurs économiques, d'économistes, c'est là le point de départ et c'est là le plus grave. Est-ce qu'on va revenir ou est-ce qu'on peut revenir vers un accord monétaire mondial de stabilisation des taux de change? Voilà. Pour l'instant, nous avons une monnaie, l'euro, monnaie qui est la monnaie la plus forte du monde, contrairement à ce que certains disent, que, évidemment, le milliardaire d'un pays d'Afrique noire s'empresse de convertir sa richesse en dollars et surtout en euros. C'est ça notre force. Ça veut dire qu'ici, l'argent coule à flot. Mais est-ce que lorsque l'argent coule à flot, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Parce que c'est une mauvaise chose pour le pays où l'argent s'en va. Mais est-ce que c'est vraiment toujours une bonne chose pour nous?
Mmh. Ouais.
Voilà ce qui est actuellement.
Oui.
Deuxième chose par rapport à cette crise, la Banque Centrale Européenne lâche de l'argent vers les banques par milliards toutes les semaines. Vous savez, elle fait ce qu'elle appelle du rachat de créances. Ces créances, elle les rachète même si elles ne sont pas de très bonne qualité. On est en train de se comporter comme des Grecs, on pourrait dire.
D'accord.
Et donc, mais il n'y a pas que la Banque européenne qui fait ça. La Banque américaine, qui risque d'arrêter, je viens de le dire,
oui,
de faire dire ça va monter un peu. Mais c'est le cas de la Banque centrale chinoise aussi. Ils ont inondé le pays d'argent facilement. Toutes ces créances, ce n'est pas 1 000 milliards, c'est 15 000 milliards. Toutes ces créances, est-ce qu'elles vont être remboursées un jour? Ceux qui les détiennent, à un moment donné, vont avoir le doute sur la possibilité de rembourser. Donc, comme solution de la crise, on a augmenté l'endettement. Est-ce qu'on ne va pas créer de nouveau une autre crise?
Mm-hmm.
Pour certains, c'est évident. On va vers une crise. Quand? On ne sait pas.
Ouais. Hein?
mais pour certains, on va vers une crise liée à cette abondance d'argent dans le monde. Oui. Il y a trop d'argent issu du crédit.
Donc, quand il y a trop d'argent, le seul moyen de dépenser...
À un moment donné, il va falloir effacer.
Voilà.
Et, donc, puis... et la crise, c'est, de faire, c'est d'effacer.
Oui.
Comment ?
Et puis, quand il y a trop d'argent, on le sait. Quand il y en a trop et quand il n'y en a pas assez, le seul moyen, c'est de faire une guerre. On dilapide l'argent, voilà. Et l'autre, on relance l'économie.
Ça renforce le pessimisme de certains par rapport à l'équilibre du monde.
Oui.
Ça renforce.
Pour terminer, parce que le temps passe, question qui n'était pas prévue, vous en avez juste soulevé un petit peu. Notre grande région, on se recentre chez nous, notre grande région cherche un nom. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Normal. Quel nom prendre ? Alors, je vais être un peu paradoxal, hein, à savoir, la région a décidé de faire, de réunir, dans la procédure, ils ont réuni un groupe de, disons, de hautes personnalités qui ont essayé de fixer des noms possibles et qui sont soumis actuellement à référendum. Donc, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire sur Internet. D'ailleurs, il faut lancer un appel à tous et... allez voir et prenez parti pour tel ou tel nom, celui qui vous convient. En tant qu'économiste, je dirais une chose. Ce qui aurait été idéal, c'est d'avoir un nom en deux syllabes. On est dans le monde de la pub, on est dans le monde du bref, on est dans le monde du fugitif. Il aurait fallu un nom en deux syllabes, comme ça, qui ait un sens positif. Il aurait fallu, mais... mais notre propre histoire intervient de tous les peuples qui sont là et qui sont venus d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle que nous sommes dans le Volvestre, que nous n'avons rien, rien de français. Nous sommes des Volques, quelque part. Bon, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, bien sûr, mais bon, nous portons toujours ça. Eh bien, les noms à choisir sont un peu compliqués. Il y a un dénominateur commun, c'est l'origine culturelle, bien entendu, la langue. On est issu des Romains de ce point de vue. Donc c'est vrai que dans la plupart des noms proposés, on retrouve la référence à la langue. Avec, ça se complique, hein, parce que d'un côté on a la mer, de l'autre côté on a la montagne. Dans un axe, on a des Catalans, et qui sont très fiers d'être Catalans. Et de l'autre, on a des gens qui se sentent moins Occitans ou plus Occitans. Donc c'est difficile. C'est une consultation populaire à tous, et c'est super en démocratie. Il en sortira quelque chose, et dans 5 ans, on aura tout oublié, on sera habitué à ce mot-là, et on en fera notre bien commun. Je rappelle que lorsqu'il y a eu la création des régions dans les années 80, et qu'on a appelé notre région Midi-Pyrénées, ça a fait rigoler tout le monde. Midi-Pyrénées, ça n'a aucun sens.
C'est vrai.
Eh bien, 10 ans après... les gens se disaient, mais je suis Midi-Pyrénées. C'est-à-dire qu'ils s'étaient approprié le nom, ils en avaient fait un élément de leur identité. Notre région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, on pourrait l'appeler, moi je ne sais pas, saute en l'air. Dans 5 ans, peut-être qu'on serait tous habitués à appeler, nous sommes d'où, de saute en l'air, ou pays du soleil, ou, etc. Non, ça c'est pas sérieux. La région, tous les gens travaillent sérieusement pour un nom qui nous parle, qui nous identifie. J'appelle tout le monde à voter et on aura une belle région.
Merci.
Merci. Bon été. Il y aura peut-être une émission en juillet. Attention, on fera une émission surprise et étonnante par son thème.